Bonjour à toutes et à tous. Les bibliothèques de la ville de Paris sont heureuses de vous proposer cette table ronde « Devenir écrivain ». Et je remercie la BPI et le Festival Effraction qui nous ont permis de renouveler ce partenariat que nous avions initié l'année dernière. Cette table ronde sera animée par Catherine Pontimbert, qui est journaliste critique littéraire. Et Catherine, avant que vous présentiez vos invités, je voudrais juste dire un mot sur le travail de la ville de Paris autour du premier roman. Ce travail date de nombreuses années, mais s'est concrétisé depuis 2017 par le prix des lectrices et des lecteurs de la ville de Paris. Ce prix a eu notamment pour lauréat Joseph Pontus, et je voudrais avoir une pensée pour ses proches, compte tenu de sa vie et de son œuvre tristement écourtée. Nous avons donc, depuis la création de ce prix, renforcé la part du vote des lecteurs qui se fait par Internet. Et nous avons aussi un comité de sélection dans lequel nous avons des bibliothécaires, bien sûr, mais aussi des lecteurs qui font partie des comités de lecture de la ville de Paris, et également des jeunes du conseil de la jeunesse et des libraires. Donc c'est l'ensemble de ces jurys qui vont nous permettre cette année encore d'avoir un lauréat, et nous aurons la sélection qui sera divulguée dès le 19 mars. Donc je vous invite à voter entre le 19 mars et le 19 mai. Nous essaierons, je l'espère, de proposer une rencontre avec les 5 auteurs. Je ne pourrai pas vous donner la liste des 5 auteurs et autrices aujourd'hui, mais je peux déjà dire que Fatima Das fait partie de cette sélection. Nous avons d'autres autrices et auteurs qui étaient moins en lumière médiatique dans le cadre de la rentrée littéraire de septembre ou de janvier. Et ce sera l'occasion pour nous de faire découvrir aux lectrices et aux lecteurs de la ville de Paris le travail de jeunes auteurs, d'auteurs en devenir. Et puis, nous aurons la remise du prix qui se fera le 18 juin 2021, donc à l'issue à la fois du vote et du jury. Donc, Catherine, je vous invite, je vous souhaite une bonne table ronde déjà, et puis je vous invite à présenter les participants.
Merci Emmanuel et bienvenue à toutes et à tous pour cette rencontre donc intitulée « Devenir écrivain ». Emmanuel vient de le rappeler, elle a lieu dans le cadre du festival Effraction, dont je voudrais simplement préciser que c'est la deuxième édition et que c'est un festival qui insiste particulièrement sur les liens entre la littérature et le réel, qui je pense pour notre conversation va être un aspect que nous pourrons probablement aborder. Je voulais moi aussi saluer la mémoire de Joseph Pontus qui a été le lauréat du prix du premier roman des bibliothèques de la ville de Paris en 2019 pour son roman intitulé À la ligne qui était paru aux éditions de la Table Ronde. Et puis vous dire aussi que le lauréat de l'année dernière, en 2020, c'était Olivier Dorchamps pour un roman qui s'intitule Ce que je suis aux éditions Finitude. Voilà, donc rencontre consacrée à l'écriture et plus particulièrement à la publication peut-être du premier roman. Cet instant si particulier et si sensible dans le parcours d'un écrivain, je vais commencer par de très rapides présentations. Fatima Das, juste à côté de moi, auteur donc du premier roman La Petite Dernière, qui est paru en septembre 2020 chez Notabilia. Et vous avez suivi à Paris 8 le master de création littéraire de l'université, donc Paris 8, qui a été fondé par Vincent Message, par Olivia Rosenthal et par Lionel Ruffel. Frédéric Forté, vous êtes poète et vous venez de publier un recueil de poésie chez POL qui s'intitule « Nous allons perdre 2 minutes de lumière ». Je n'ai pas montré votre roman Fatima Das, donc je me rattrape. Voici la petite dernière. Et vous êtes, Frédéric Forté, présent aujourd'hui parce que vous êtes le co-directeur d'un master de création littéraire. C'est celui de l'Université du Havre, qui a une caractéristique que je trouve intéressante parce que dès l'origine, ce master était appuyé sur l'École des Beaux-Arts du Havre. Donc il a une couleur assez orientée sur le lien entre littérature et art. Et donc, Chad Haddad, dont voici le roman Tony tout court, donc paru chez POL en janvier, donc tout récemment, il y a 2 mois, tout juste. Et vous avez suivi précisément ce master dont je viens de parler à l'Université du Havre. Alors pour commencer, une première question un peu générale à vous deux, Fatima et Shan. Lorsqu'on publie un premier roman, d'abord, ça n'est peut-être pas nécessairement le premier que l'on ait écrit, ou bien ça peut être un livre qui a été écrit il y a un certain temps. Et je me disais que peut-être dans la publication du premier roman, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un passage à l'acte, qui nécessite probablement à la fois un mélange de quelque chose qui serait de l'ordre de « j'ose montrer », mêlé aussi peut-être d'une appréhension, suis-je à la hauteur ? Comment ces deux sentiments se sont-ils mêlés pour vous au moment où vous avez accédé à la publication du premier, de votre premier livre ? Shan, Fatima, allez.
Alors, moi, c'était particulier parce qu'en fait, quand j'ai intégré le master de création littéraire, j'avais postulé avec une idée de roman à partir de tableaux hyper réalistes d'une peintre que j'avais rencontrée quelques années avant. Et en fait, j'ai changé 2 fois de projet pendant mon master parce que j'essayais à chaque fois d'écrire quelque chose qui était éloigné de moi. Parce que c'était une manière pour moi aussi de réussir à montrer ce que j'écrivais. Donc j'avais beaucoup de mal à vraiment chercher l'endroit où ça allait sortir et où c'était important, en fait, nécessaire. Donc je suis passée par plusieurs étapes d'acceptation, en fait, d'écrire quelque chose qui me tient, qui me porte, qui est important. Donc j'ai changé de projet, j'ai essayé d'écrire un roman épistolaire. Tout en protégeant à chaque fois. Et finalement, pendant un cours avec Lionel Ruffel, donc, un enseignant du master de création littéraire, j'avais écrit un texte sur mon rapport à l'islam. Et là, tout d'un coup, en fait, mes camarades de classe, mon enseignant m'avaient dit « Mais en fait, on sent qu'il y a quelque chose de très fort et il faut que tu poursuis ce texte-là. »
Et ça s'est fait comme ça.
Ça a commencé comme ça.
D'accord. Shan, sur cette peut-être ambiguïté qui accompagne dans les émotions et dans les sentiments la parution du premier roman.
Oui, en fait, l'intérêt d'un master de création littéraire, en fait, ce qui était beau dedans, c'était que tout d'un coup, on nous donnait un cadre et un espace pour commencer à écrire, pour nous donner la légitimité d'écrire. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement quand on a 20 ans et qu'on doit faire des études et qu'il faut qu'on se débrouille et qu'on gagne de l'argent et qu'on se détache un petit peu de la famille. Et à ce moment-là, en fait, donc moi j'avais Frédéric Forté comme référent. On a un référent qui nous accompagne et qui nous dit, en fait, concrètement, vous devez écrire maintenant et vous avez cette contrainte de temps qui est de 2 ans. Et essayez de produire le meilleur pour vous-même parce qu'ensuite, ce sera... dans tous les cas différents, parce qu'on ne sera pas accompagné des 15-30 élèves autour de nous qui écriront. On sera seul chez nous. Et cet espace-là, ce dialogue-là, c'est un vecteur de parole et du coup de libération. Et cette libération-là, moi, je l'ai trouvée vraiment essentielle et prometteuse pour tout le monde, en fait.
Mais puisque vous insistez toutes les deux d'emblée sur le rôle de ces masters de création littéraire qui sont un phénomène quand même extrêmement fort et prégnant depuis quelques années, Frédéric Forté, est-ce que dans la création de ces masters, donc à l'université, mais il y a aussi des lieux comme l'école Les Mots qui a été créée à Paris et qui, je crois, s'inscrit un peu dans le même esprit, est-ce qu'au départ, c'était peut-être une façon de dire que la littérature était le seul des arts qui n'avait pas de lieu d'acquisition et de formation, pas d'endroit, hein. Il y avait pour l'art, pour la musique, des académies, des conservatoires, etc. Et qu'au fond, ça repose aussi sur des techniques.
Oui, exactement. Bon, moi, je fais partie d'une génération, comme tous les écrivains avant moi, qui ont appris, on va dire, de manière autodidacte en lisant des livres, quelles que soient les études qu'on fait. Et il y aura, j'espère, je pense, toujours des manuscrits qui arriveront chez les éditeurs, écrits par des jeunes gens qui ne seront pas passés par des formations. Et c'est très bien. Ce que vous avez dit, on ne se pose pas la question de l'existence des écoles d'art, de design, des conservatoires de musique, des lieux où il y a une communauté. Alors, il y a bien sûr l'acquisition de techniques. Dans le cas de l'écriture, ça se passe, à mon avis, un petit peu différemment de, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de ce qu'on peut rencontrer, bien sûr, au conservatoire, par exemple, ou même en école d'art. Simplement, c'est vrai que là où des jeunes gens auraient normalement beaucoup de de moments de solitude face à leurs manuscrits, à envoyer à des auteurs qu'ils estiment pour avoir des retours, etc. Là, d'emblée, par exemple, pour Fatima à Paris 8, Jeanne au Havre, elles se retrouvent dans une communauté de personnes de leur âge qui ont des projets parfois totalement différents. Et en même temps, il y a cette tension. Donc finalement, la question que vous avez posée au début, peut-être qu'elles ne sont pas les mieux placées pour y répondre, parce que tout le cadre, tout le dispositif permet d'oser. Qu'avant d'envoyer son manuscrit à un éditeur, finalement, il y a déjà eu des lectures, il y a eu une... Dans les deux cas, je crois que c'était le projet de diplôme que vous avez présenté à la fin des 2 ans. Donc, il y a une lecture devant un jury, etc. Donc, ça déplace un petit peu cette tension que vous évoquez.
Moi, j'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quelques années, où on formulait un certain nombre de réserves sur ces lieux qui sont en train de devenir des pépinières, vraiment, de création de jeunes auteurs. Et la réserve consistait en l'idée que ça pourrait être, au fond, des lieux de formatage des écrits. Est-ce que vous avez... À un moment ou un autre, était traversé par cette pensée. Et Frédéric, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez entendu, vous.
Oui, et moi-même, on a tous, enfin, en tout cas, quand on s'intéresse à la littérature, l'image du creative writing à l'américaine, où il y a des choses très bien, mais il y a aussi cette idée qu'on va vous apprendre à écrire le roman qui va être édité, etc. Pour ma part, je suis totalement à l'opposé de ça. Nicole Caligaris, ma collègue romancière au Havre également. Laure Limongi, moi je prends la suite de Laure Limongi qui a vraiment porté le master pendant 6 ans et qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Pareil, et à Paris 8, je connais un petit peu certains des enseignants de Fatima. Je pense que c'est la même chose. Il ne s'agit pas de formater, il s'agit pour moi d'accompagner. C'est plus un accompagnement qu'un enseignement au sens fort du terme. Un accompagnement pour que chaque... étudiants qui sont dans le master puissent être, comme tu l'as dit, Jeanne, au mieux d'eux-mêmes, en fait. Donc, oui, je comprends tout à fait la critique et je pense que ça serait un danger. Si c'était ça, il faudrait à tout prix faire machine arrière. Mais je crois que c'est plutôt autre chose. C'est ce temps-là, de cette communauté, cette occasion qui est donnée, c'est un accélérateur, c'est un accompagnement qui est assez... qui cherche à valoriser l'individu et les écritures très diverses.
Est-ce que cette idée de formatage vous a l'une ou l'autre préoccupé, disons ?
Moi, je me suis pas posé une seule fois la question parce que quand je suis arrivée dans le master, j'ai compris qu'on n'allait pas du tout nous donner des outils. C'était plutôt vraiment un temps pour trouver la sincérité en nous. Donc, c'est plutôt une mise en lumière des singularités, de toutes les singularités qu'on peut avoir dans un master, et pas du tout, par exemple, ce que c'est la narration, ce que c'est l'énonciation, ce que c'est la fiction, ce que c'est le roman. Chacun écrit ce qu'il veut. Il n'y avait pas tant de notions de forme que ça par rapport vraiment à l'objet livre. J'ai des amis qui ont écrit vraiment de la poésie extrêmement brute. Et puis surtout, on a effectivement les professeurs, mais je le redis, l'importance de ce master-là, en tout cas au Havre, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Paris 8, mais c'est la mise en dialogue entre tous les étudiants, parce qu'on est des étudiants de nous-mêmes, en fait, de notre propre processus. Et à partir du moment où il y a dialogue, il y a diversité. À partir du moment où il y a diversité, on n'est plus dans le formatage.
Fatima,
moi, juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi, c'est très riche, en fait, comme on a les retours de plein de personnes. Après, c'est à nous de faire le tri. Après, je pense aussi que ce qui est important dans ce master, c'est qu'on a un cadre. Moi, c'est ça que je recherchais, en fait, c'est que j'arrivais pas à terminer les choses. Je commençais quelque chose, je terminais jamais. Et ce cadre-là de 2 ans et de savoir qu'on a une soutenance avec des éditeurs, etc., on est forcé d'écrire et de rendre des textes. Et aussi, ce qui était important, c'était de participer aux textes des autres, de pouvoir donner des avis. Et après, la personne en faisait ce qu'elle voulait, pouvait, avec toutes les ressources qu'on pouvait apporter.
Au sein du master, il y a donc une dimension d'accompagnement, parce que je retiens ce mot-là qui apparemment est celui qui fait consensus entre vous trois. Pour la phase de l'écriture, qu'en est-il ? Alors, c'est peut-être là un éditeur qui aurait pu répondre le mieux, mais j'imagine que vous avez tous les trois un regard là-dessus. Qu'en est-il après de la phase de l'édition à proprement parler ? Est-ce que les masters favorisent le contact, le lien avec des éditeurs ? Ou bien, une fois que le texte est terminé, chacun se retrouve avec son premier roman face à... voilà, comme les autres finalement, soumis
à... La réponse très concrète est bien sûr que ça favorise, parce qu'en fait, c'est aussi une richesse dont parlait Fatima, c'est la richesse, le travail, enfin la communauté entre, des étudiants, mais aussi toutes les rencontres qui se font dans ce cadre-là, avec des écrivains, parce qu'il y a des workshops qui sont organisés. Cette année, on vient de faire un workshop avec Lucie Taïeb, par exemple. Là, Nicole Caligaris pilotait ça. Il y aura à la fin de l'année Olivier Cadio, voilà, des gens comme ça, donc très divers, et c'est quand même une chance incroyable. On donne pas des outils, mais c'est aux écrivains qui sont là, étudiants, de se fabriquer leurs propres outils. Et imaginez ce qui peut se passer quand vous avez 22 ans, que vous écrivez pour la jeunesse, par exemple, avec des choses qu'on favorise aussi, hein, et que vous vous retrouvez à faire un workshop avec un poète contemporain. Comment ça fait bouger votre écriture ? Il ne s'agit pas de vous faire faire de la poésie contemporaine, mais il s'agit tout d'un coup d'ouvrir des horizons, de piocher là où on veut et comme on veut. Dans ce cadre-là, pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a aussi des éditeurs qui viennent parler de leur travail. Dans 15 jours, j'invite Benoît Leroux, des Éditions de l'Ogre, à venir faire une masterclass. Je trouve qu'il était aussi dans le jury l'année dernière et qu'il n'a pas pu aller au Havre pour les raisons qu'on sait. On a fait ça en visio, donc j'avais envie de l'inviter cette fois-ci, si on peut le faire. Et par exemple, tout simplement, quand Sean, dont j'ai suivi le roman pendant 2 ans, a eu terminé ce livre que je trouve absolument merveilleux, bah, j'ai eu envie je lui ai dit, bah, on va en parler. Je vais en parler à un éditeur avec qui j'ai déjà fait un livre qui s'appelle POL. Et je ne pensais pas que son livre paraîtrait avant le mien, mais ça c'est toute la différence entre le roman et la poésie. Non, je dis ça en plein temps, c'est très bien, mais pour vous dire que oui, c'est un accélérateur. Et en même temps, je pense que ce que j'ai entendu du livre de Fatima, ce sont des textes qui trouveraient un éditeur. Est-ce qu'il le trouverait aussi vite ? Je ne sais pas pour toi, Fatima. Pour Sean, sans doute que ça a accéléré, bien sûr, mais il serait sans doute sorti. Je pense que Frédéric Boyer l'aurait
Frédéric
aimé,
Boyer l'aurait, de
même
toute
s'il
façon...
avait découvert par la poste.
Fatima, sur l'aspect éditorial
Moi, j'ai rencontré mon éditrice à ma soutenance, en fait.
D'accord.
Donc, j'ai pas eu tout le travail de recherche. Et ça a été une rencontre incroyable directement, en fait. Enfin, ça a mis un peu de temps après. Et elle adore raconter cette anecdote. Ouais. Elle m'a écrit le lendemain. Et après, je lui ai répondu 2 mois après. Et elle adore raconter ça. Mais en fait, j'avais besoin d'être sûre de... Quelle est la lecture que j'attendais, en fait ?
C'est intéressant parce qu'en fait, avec ces phénomènes de master de création littéraire, on renverse un certain nombre d'images et de stéréotypes, je crois, sur l'écrivain. Notamment, cette question de la grande solitude qu'on peut parfois... Parce que d'après ce que vous dites, il y a un accompagnement, il y a le fait d'écrire sous le regard des autres. Est-ce que quand même, la question de la solitude, elle ne vous a pas rattrapé à un moment ou à un autre, toutes les deux ? Et à quel moment précis vous avez senti quand même que, voilà, dans l'acte d'écriture, il y a quelque chose de profondément solitaire ?
La solitude, elle est toujours là. Enfin, je ne sais pas pour Fatima, mais pour moi, oui, c'est sûr. Elle est toujours là parce qu'à partir du moment où on se met devant l'ordinateur pour écrire, en fait, le simple fait de sortir des mots et de trouver un rythme, rien que ça, c'est une solitude énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a du silence. Voilà, moi, je suis accompagnée de silence quand j'écris. Et c'est ce silence-là qui favorise, cette espèce de dépendance tout d'un coup à son propre soi, à cette espèce de grouillement intérieur très étrange, à cette matière noire. Mais moi qui viens du théâtre, d'études de théâtre, j'ai toujours été stimulée par le mouvement de groupe, par la création qui peut se faire en amont. Des discussions, simplement des discussions, et j'espère ne pas perdre ça plus tard. C'est-à-dire que Frédéric Forté, ça a été mon référent, mais je continuerai, je pense, de lui parler. Et puis aussi, avoir un éditeur, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi favoriser un échange. C'est sûr que la qualité aussi première est là, d'avoir un éditeur en qui on a confiance. On parle beaucoup de cette confiance qu'il y a entre un éditeur et un écrivain, et je pense qu'elle n'est pas anodine.
Non, loin de là.
Ouais, un peu comme Shane. On s'est pas mis d'accord, mais un peu,
d'accord.
Un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie très seule au départ, alors que j'étais entourée. Très seule parce que je me suis rendue compte que j'allais écrire un truc très important qui était en moi depuis très longtemps. Ensuite, très seule quand il a été publié, avec la médiatisation, etc., alors que j'étais encore entourée par une équipe, par mon éditrice, par mon encadrante Christine Montalbetti du Master de création littéraire. Donc cette solitude, en fait, elle est là au départ et elle continue. Après, on a j'ai envie de dire, j'ai aussi besoin de cette solitude pour écrire.
On fait là, en quelque sorte, le portrait d'une nouvelle génération d'auteurs, passée donc par ces formations qui sont proposées maintenant dans les universités. C'est intéressant parce que c'est un phénomène nouveau. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on le voit, vous êtes extrêmement jeune. Je ne sais pas si le critère de l'âge doit être souligné pour la parution d'un premier roman, mais peut-être quand même, parce qu'il y a probablement l'idée, l'esprit des éditeurs, le fait que vous êtes en devenir et qu'il y a une œuvre qui va se dérouler dans le temps. Donc je ne sais pas, Frédéric Forté, la question de l'âge, elle est récurrente dans la publication du premier roman, ou bien les gens qui viennent participer à ces masters sont plutôt des gens jeunes.
Oui, plutôt l'âge du premier roman, ça, je ne suis pas vraiment qualifié pour répondre, surtout que je n'ai pas encore écrit le mien, donc
ça arrivera peut-être.
Ouais. J'ai des pressions un peu à droite, à gauche. Mais oui, en tout cas pour la dimension recrutement dans le master, souvent ce sont des jeunes gens qui sont encore dans le cursus universitaire. Certains sont en reprise d'études. On a des fois des étudiants autour de 40 ans, mais c'est plus rare. Donc c'est vrai que déjà il y a plus de candidats jeunes parce qu'ils sont encore dans une logique de faire une formation, de suivre une formation, de continuer une formation universitaire. Donc bien sûr ça joue. Et en même temps il y a beaucoup de candidats. J'imagine, Le Havre et Paris 8, on est un peu les deux masters les plus attractifs, je pense. Et donc on voit des candidats qui essayent les deux. De partout en France, voire d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de monde qui postule, et finalement, on a 15 places par promotion. 15 places sur une centaine de dossiers. On trouve des jeunes gens qui ont déjà une certaine maturité, un certain regard sur l'écriture et la littérature contemporaine. Donc, il y a une forme de maturité. On prend dans nos filets, si j'ose dire, des jeunes gens qui sont déjà... qui ont déjà... certains sont plus innocents, mais en même temps, ils ont quand même une idée de ce que c'est que la littérature d'aujourd'hui.
On va revenir à des questions un peu plus générales, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur vos deux romans. Fatima Das, avec La Petite Dernière, vous proposez un récit qui fait le portrait d'une jeune femme française d'origine algérienne qui est musulmane et qui est homosexuelle. C'est un récit, bien sûr, qui a dû... On viendra à la forme après, mais sur le fond, c'est un récit qui a dû surmonter un certain nombre d'obstacles pour trouver la voie juste pour exprimer cette identité complexe. En quoi la participation comme ça à une formation vous a aidé à passer outre tous les obstacles qui se présentaient sur le chemin de ce récit-là?
Ouais, c'est délicat. Je pense que ce qui m'a aidé, c'était d'abord de... En fait, j'ai mis un certain nombre de temps à le faire lire à toute ma promo. Donc je l'ai envoyé à des amis au départ, donc le premier texte que j'avais écrit pendant ce cours-là, je l'avais fait lire à 2-3 personnes de mon master qui m'avaient dit « mais c'est super, il faut que tu continues », et ça m'avait mise en confiance. Ensuite je l'ai fait lire et j'ai eu de très bons retours, donc ça m'a aidée. Ensuite j'ai l'impression que j'ai dû chercher en moi l'endroit où j'allais être capable d'accepter ce que j'avais à écrire, en fait, d'arrêter de me surprotéger dans l'écriture et de me dire en fait elle est là l'urgence d'écrire et c'est cette histoire là que tu dois porter. Ce qui m'a aidé ensuite, c'est de travailler la fiction, de me mettre à distance, de me dire ok, t'es pas en train de raconter ton histoire et t'es en train de créer un personnage et Fatima Das, donc le personnage et moi-même qui suis devenue mon personnage. Je sais plus trop où j'en suis.
Ouais, la question de la distance, elle est importante dans un récit de ce type-là. C'est précisément ce qu'il faut arriver à trouver, bien sûr.
Exactement.
Ouais, et ça a été un travail important pour vous?
C'était très important pour moi. C'était très important. Ça c'est arrivé dès le début, en fait. Dès le premier texte, j'avais déjà créé un personnage. Alors que je parlais de mon rapport à l'islam dans ce cours-là.
Vous avez en commun toutes les deux, Shan, vous avec Tony Toucourt, vous faites également le portrait d'une jeune fille, toute jeune fille, puisque c'est un récit qui se déroule sur 24 heures. Et c'est le jour de l'anniversaire de Tony, donc elle a 20 ans. Et votre livre est... tourner de manière extrêmement forte vers la question du corps et de ce que c'est que le corps d'une jeune fille de 20 ans. Là aussi, un peu la même question que celle que j'ai posée à Fatima. Est-ce que sur ce point-là, très sensible, la participation à une écriture sous le regard des autres vous a aidé à surmonter des obstacles qui se présentaient, je pense, inévitablement à vous?
Oui, bien sûr. Quand je suis rentrée dans le master, enfin le dossier que j'ai envoyé, parce qu'il faut envoyer des petits textes de fiction et un projet professionnel d'écriture, j'avais présenté un texte autour du foot aussi, mais parce que ce texte parle de foot, mais
oui, la journée se termine sur un match de foot.
Voilà, c'est ça.
Dans une tribune. Tout le récit tend vers ce match.
Voilà. J'avais envoyé des textes et une idée de mon texte autour de tableaux très très distant de tout un, enfin d'un personnage présent. Enfin, je voulais pas de personnage. Je voulais une écriture très aérée. Et en fait, le moment où j'ai commencé à écrire, je m'en suis complètement détachée et j'ai commencé à créer un personnage. Et c'est Tony qui est arrivé comme ça d'un coup sur ma feuille. Et ensuite, ce n'est que une histoire d'étapes, des espèces de micro-étapes qui en fait ont une valeur immense, qui est à la fois une espèce de mise à nu entre soi et le texte, donc une acceptation dont tu parlais, Fatima, et aussi une mise à distance. Et effectivement, je peux pas nier que mon intimité est dans ce texte-là. C'est pas du tout une autobiographie, ni une autofiction, c'était pas l'idée. Je suis une enfant du roman, mais il y avait vraiment l'idée de partir de ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre, ce que mes amis ont pu vivre, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant qu'homme aussi, et entrer dans un processus de fiction. Cette plateforme-là entre la réalité et la fiction, c'est vraiment très délicat. Parce qu'il y a une histoire de justification autour.
Ouais,
et cette justification-là, elle n'est pas nécessairement simple. Mais quand on est accompagné et qu'on nous déculpabilise de parler de tout ça, je crois que ça fait du bien aussi parce que ça déclenche l'écriture.
Mais moi, j'aimerais justement qu'on fasse peut-être le lien avec ce que le festival Effraction met en lumière, c'est-à-dire le rapport entre la littérature et le réel. J'ai l'impression que dans vos deux romans, et c'est pas seulement une impression, il y a ce souci du réel qui est extrêmement fort. Vous avez en commun des ambiances urbaines, notamment avec des déplacements dans les moyens de transport en commun de grandes villes qui nous replongent vraiment dans des sensations et des expériences que nous avons tous traversées. Ce souci du réel, comment est-ce que vous l'avez finalement mis en scène dans vos romans? Est-ce qu'on arrive à restituer du réel en étant dans la fiction?
Alors moi d'abord j'écrivais des choses que j'avais, les trajets par exemple, les trajets de Clichy-sous-Bois à Paris, de Fatima, mon personnage qui va à l'université ou qui rentre chez ses parents, c'est des choses que j'ai vécues différemment, mais mon premier jet c'était vraiment de raconter mes trajets. Ensuite je transformais mon texte en intégrant de la fiction en fait. Et je crois que ça a été comme ça à peu près pour toute la quête identitaire, parce que je pars, comme disait aussi Chêne, de ressentis, d'expériences, j'ai envie de dire, personnelles et intimes, que je transforme. Mais j'avais besoin de partir d'abord de ces expériences-là et de ces émotions et de ces expériences pour ensuite les transformer.
Moi, c'était le point de départ, ça a été le corps pour entrer dans la réalité, dans le réel. Pas la réalité. Je fais l'indistinction parce que la réalité, c'est quelque chose de très différent que le réel. Donc le réel, pour moi, c'est une espèce d'histoire de grouillement corporel, de fluide. Enfin, c'est très concret, très trivial. Et en partant du corps, en fait, l'idée, c'était de mettre en difficulté le corps. Comme par exemple un joueur de foot peut être en difficulté pour arriver jusqu'à son but. Et ce qui m'intéresse dans le sport, c'est cette lutte entre l'espace et son propre corps, cette difficulté à constamment se surpasser. Et en fait, Tony traverse de la même manière la ville. Elle essaye d'arriver à son but avec un nombre d'obstacles pas possible devant elle. Et en partant du corps, je suis rentrée à la fois donc dans le réel et à la fois dans une mise en fiction. Mais le lien est ténu. Enfin, c'est quelque chose qui est tremblant. On peut pas mettre une distance entre ces deux-là. Aujourd'hui, par rapport à toutes les images que l'on voit constamment, on est quand même bercé par l'image et c'est quelque chose qui a beaucoup changé à partir du moment où le cinéma a commencé à raconter les informations, la photographie, les reportages. On est constamment ramené au réel et la fictionnalisation est d'autant plus étrange parce que on est tout le temps en train de fictionnaliser, on est tout le temps en train de raconter des histoires, mais la part de réel est de plus en plus trouble. Et je crois que pour moi, c'était inévitable d'insuffler du réel dans la fiction et inversement.
C'est intéressant que vous ayez parlé d'images parce que vous avez toutes les deux d'ailleurs des écritures qui font images et très visuelles en fait. Donc, mais on va y revenir. Je voulais juste sur la question du rapport entre littérature et réel ou réalité, comme Shan a bien fait la distinction, savoir si c'était un aspect qui est régulièrement abordé par les auteurs de premiers romans, cette question-là,
mon expérience des premiers romans, ça passe par les auteurs du master depuis que j'ai repris. Je dirais oui et non. Moi, ce que je trouve très beau, c'est que, par exemple, dans le cas des romans de Fatima et Shan, ces romans trouvent un écho apparemment assez remarquable pour un premier roman dans les médias, dans la presse, parce que je pense qu'il touche à quelque chose en lien avec le sociétal. Oui. Et en même temps, moi, ce qui me plaît, et c'est ce que j'aime personnellement, c'est que c'est la littérature, c'est-à-dire que c'est l'écriture. Et je pense que dans le cadre du master, finalement, quelle que soit la direction vers laquelle a envie d'aller une autrice, un auteur, c'est de l'accompagner en essayant bien sûr de le pousser vers ses retranchements. Mais je trouve que c'est intéressant que des livres de cette qualité-là puissent trouver un écho avec notre réel. Mais je pense aussi que s'ils sont édités, c'est parce que les éditeurs... Notabilia au POL, on trouvait des qualités vraiment d'écriture. Et c'est ça qui me tient à cœur. Et je suis ravi de lire des choses qui ont en prise avec le réel et peut-être des livres de poésie qui pourraient être plus abstraites ou pourquoi pas de la littérature jeunesse qui serait dans la fantasy. En tant que, de mon point de vue de responsable d'un master, c'est vraiment cette idée qu'il y a tous ces possibles qui sont ouverts. C'est pour ça que c'est pas non plus une école au sens un groupe où on pousserait par exemple à avoir des écrits d'un certain type, mais au contraire, d'accompagner encore une fois ces différentes envies. Et quand ça donne ça, ça crée cette étincelle avec les médias qui s'intéressent beaucoup à cette dimension-là aussi, je dirais.
Je suis très contente que vous insistiez sur le fait que ces deux romans bénéficient d'une réception effectivement très favorable. Et bien évidemment, si vous bénéficiez toutes les deux de cette réception, c'est parce que, au-delà du contenu de vos romans, on entend une voix. Voilà, d'emblée, on sait qu'on est en face d'auteurs qui ont une voix. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, en vous lisant ensemble, il y a une même tension dans la manière dont vous écrivez, alors qu'il passe par des procédés sensiblement différents. Chez vous, Fatima, ça passe énormément par le procédé de la répétition. Et c'est un long monologue extrêmement tendu. Ce procédé de la répétition sur lequel vraiment vous faites beaucoup reposer le récit, c'est quelque chose que vous avez trouvé d'emblée ?
Ouais, en fait, dès le premier texte.
Ah ouais,
d'accord. Dès le premier texte, il y avait « Je m'appelle Fatima » et le déploiement d'une identité. C'est ce qui m'a permis de d'écrire chaque chapitre, de tenir et de réussir en fait à trouver... à dévoiler en fait par petites touches ce personnage-là en fait que j'arrivais moi-même parfois pas à saisir et en répétant comme ça ces idées obsessionnelles en fait de qui je suis, qui est ce jeu, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, ça m'a permis dans l'écriture en fait d'avancer et aussi de créer ce personnage trouble qui est constamment à la recherche de quelque chose, à la recherche de sa place, à la recherche d'amour, à la recherche de pardon. Et ouais.
Chez vous, Shan, il y a une tension formidable dans l'écriture de ce roman. L'image qui m'est venue, c'est celle d'un tourbillon. Voilà, on est vraiment entraîné dans un tourbillon. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont vous utilisez les différents modes de narration, en passant du « je » au « il » et au « tu », en mêlant en fait toutes les personnes, comme si c'était au fond la seule façon... possible pour décrire ce moment si délicat du passage d'une jeune fille de l'enfance à l'âge adulte, hein, puisqu'elle fête ses 20 ans ce jour-là.
Quand j'ai commencé à écrire la première page de Tony tout court, elle est restée telle qu'elle, elle n'a jamais bougé. La distinction entre le « je » de Tony et le « elle » de la vision extérieure est arrivée tout de suite. Je ne saurais pas trop l'expliquer. C'est comme si moi aussi, comme disait Fatima, j'essayais de saisir qui était ce personnage. Parce que au-delà du fait que j'écrivais un corps qui ne se comprenait pas, c'était aussi la première fois que j'écrivais un projet qui comptait pour moi, vraiment intimement. Et il y avait cette recherche de qui est Tony pour moi, qui est-elle pour elle-même, est-ce que je suis elle, est-ce qu'elle est moi, et en fait j'ai commencé à la sentir à côté de moi, très étrange, c'est un espèce de dedans-dehors inexplicable qu'est ce moment d'écriture. Et je n'ai pas pu échapper au fait qu'il fallait qu'elle sorte d'elle-même et que je sorte d'elle et que je sorte de moi-même. Ça, c'est un triangle infernal, mais c'est comme ça que ça s'est exprimé. Et pour lui trouver une voix, il fallait que je trouve la mienne dans le texte, que le narrateur slash auteur puisse être présent. Donc c'est trouver sa place par rapport à son personnage aussi. Et ça, je crois que c'était caractéristique du fait que j'écrivais pour la première fois.
J'adore narrateur slash auteur, ça c'est la bonne formule.
Bon titre d'émission.
C'est super. Et j'imagine que cette question-là du narrateur slash auteur, elle revient, elle doit être très récurrente dans les questions que se posent les jeunes auteurs de premier roman, parce qu'elle est cruciale, bien sûr.
Premier roman ou pas premier roman, j'ai l'impression qu'à partir du moment où de jeunes écrivains dans le roman, on va dire, se lancent se lancent dans un roman, ils écrivent avec, notamment en plus dans le cas d'un master, avec la conscience qu'il y a des romans, il s'en est écrit un certain nombre, on va dire, pour pas dire beaucoup. Et en même temps, ils découvrent aussi, je pense que c'était le cas, bon, je sais pour Chan et pour toi Fatima, c'est-à-dire que c'est des années de formation aussi où on découvre de nouveaux auteurs. Un camarade, un enseignant va dire « Ah mais tu n'as pas lu, t'as pas lu ça ? Ah ben lis ça !» Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire mouche, ça peut tomber à côté. Moi, je sais que Chan, Gertrude Stein, il faut que tu dises Gertrude Stein. Elle m'a dit, ouais, c'est bien, mais je préfère Violette Le Duc. Enfin, c'est pas préfère, elle a pas dit comme ça, parce qu'elle est, elle sait, voilà, mais je veux dire, ils prennent la nourriture qu'ils souhaitent. Et donc, moi, je pense que finalement, il y a une conscience assez aiguë, parce qu'on est là pour, finalement, les étudiantes et les étudiants ont des lecteurs, des lectrices privilégiées, leurs camarades, leurs enseignants. Mais après, c'est finalement, ce sont des problématiques que j'espère se pose tout écrivain, qu'il soit à son premier ou à son dixième roman.
Il y a une question qui vous relie encore. Il y a beaucoup de liens, en fait, entre vos deux romans. On l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'y arrête davantage. C'est la question du corps, parce qu'elle est vraiment cruciale dans vos textes. C'est intéressant parce qu'à la fois, les corps sont extrêmement présents, mais vous n'êtes pas dans la description détaillée des physiques. Est-ce que sur cette question de la façon dont on montre le corps de jeunes femmes, vous aviez des référents sur cette question-là, des textes peut-être qui vous avaient marqué au cours de vos lectures sur la façon dont un romancier, une romancière peut mettre en voix le corps, justement.
Salut, parce que j'ai réfléchi.
Justement, moi, l'idée, ça a été de me détacher de toute référence par rapport au corps. À nouveau, je parle de l'image parce qu'elle est très présente. Et je trouve que le livre propose une temporalité tellement étendue pour une intimité que l'idée, c'était de sortir aussi de l'image. Mais comme vous le dites aussi, c'est très imagé. Nos deux textes sont très imagés.
Très,
et cette image-là, je me doutais bien qu'elle allait arriver puisqu'on parle du réel. Mais je voulais pas qu'elle passe par le physique. C'était très important pour moi parce que si je commençais à donner un physique à Tony, parce que je ne décris pas Tony physiquement dans le texte.
En fait, on serait bien en peine de dire à quoi elle ressemble.
C'est ça.
En fait,
mais
quand
même
on...
moi, je la connais pas.
D'accord.
C'est un personnage qui m'échappe complètement. Ce n'est pas du tout moi. Je la vois pas comme une projection de mon propre corps. Et le fait que de ne pas la décrire physiquement, c'était un moyen aussi de ne pas l'arrêter dans le texte, de ne pas la définir. Elle a déjà tellement de poids sur ses épaules qu'elle décrit énormément son corps, mais par des détails. Et je trouvais que c'était le détail qui importait parce que la focalisation souvent des jeunes femmes, c'est des détails complètement incongrus, qui deviennent des énormités dans tous les sens du terme, généralement. Et j'ai voulu décrire ces obsessions-là par le fait de parler de son rapport à son intimité et pas de, pas de son rapport à un corps normé, parce qu'il serait tombé dans la norme en fait très facilement. Et puis il y a autre chose, c'est le fantasme de la beauté, qui est quand même récurrent dans la littérature, notamment masculine. Et je voulais absolument me défaire de ça parce que on a grandi. Et là, j'ose dire on parce que on a été tous à l'école et on a tous grandi avec des textes masculins, avec des formes très sibyllines pour décrire les femmes. Et l'idée, c'était réellement d'en sortir parce que je ne suis pas homme et je veux créer un personnage qui est indépendant de tous ces regards et de toutes ces projections.
Comme vous parliez de motifs récurrents, j'aurais juste qu'on en signale un, parce qu'il est extrêmement intéressant dans la façon dont vous le traitez dans le texte, c'est le leitmotiv des cheveux qui revient en boucle, c'est le cas de le dire, en permanence dans le texte.
Permanente même.
Non. Oui.
C'était un très mauvais jeu de mots.
On va filer les jeux de mots. Voilà, mais c'est intéressant la façon dont vous l'avez réintroduit à travers une phrase qui est une phrase répétée par, non pas par elle, mais l'attention aux cheveux, en fait, c'est une sorte d'injonction maternelle.
Tout à fait. En fait, au-delà même de l'injonction maternelle, c'est une injonction globale, systémique, sociale. Quand on regarde les photos de nos grands-parents, de nos grands-mères, elles ont tout le temps des coiffes magnifiques. Et ce rapport aux cheveux a beaucoup changé et je trouve ça passionnant. Il y aurait une histoire du cheveu et de la coiffure à faire, je pense, à travers les époques. Mais ça reste quand même quelque chose de très particulier parce qu'il y a des... Les adolescents ont les cheveux longs. Quand on commence à avoir la vingtaine, on se coupe les cheveux. Enfin, je sais pas. Ça crée des quand on, par exemple, on subit une rupture, on se coupe les cheveux. C'est quelque chose chez la femme qui est, enfin, chez les femmes, qui est assez récurrent. Et je me souviens avec mes amis avoir beaucoup focalisé sur mes cheveux quand j'étais plus jeune. Et je trouvais que ça avait une signification beaucoup plus sérieuse qu'une simple anecdote. Et c'est après dans l'écriture, c'est un mouvement, ça sort tout seul. Et puis après on le justifie, mais c'était là quand j'ai écrit.
Ouais. Alors cette question du corps, chez vous Fatima, elle est loin, pour reprendre l'expression de Chan, elle est loin d'être une simple anecdote, elle est même centrale dans le roman en fait.
Oui, et ça passe surtout, je crois, par le regard des autres, le regard de la famille. Le regard du corps enseignant, de l'autorité à l'école. Surtout par là, en fait, des amis, des autres. Parce que Fatima, elle se pose pas vraiment la question de à quoi elle ressemble, en fait. Et tout ce qui l'importe, c'est comment les autres la voient. Et donc, elle cherche, à travers les idées des autres sur elle, qui elle est ou qui elle a plus envie d'être, quoi. Et donc, il y a cette idée de féminité dès l'adolescence avec sa mère qui cherche à ce que Fatima soit une bonne petite fille. Elle raconte qu'elle l'habille jusqu'à ses 12 ans, qu'elle lui fait porter des jupes, etc. Et Fatima ne se sent pas bien dans ces vêtements-là. Et elle lui rappelle à chaque fois aussi, cette mère, qu'elle ressemble à un garçon et qu'elle ne doit pas ressembler à un garçon. Et Fatima ne sait pas bien ce que c'est qu'être un garçon, ce que c'est qu'être une fille, entre autres.
Oui, et c'est important dans le roman, bien évidemment. On va peut-être, pour finir, aborder cette question de... au fond, le premier roman, c'est une genèse. Il y a quelque chose qui se met en place. Est-ce que vous avez déjà, l'une et l'autre, ressenti le fait que ce premier acte posé de la publication du premier roman avait dans vos vies... définitivement changer quelque chose, qu'il y avait là une voie qui s'était ouverte et que vos vies allaient être transformées, qu'il y a une œuvre, c'est un grand mot, mais enfin qui se prépare. Est-ce que tout ça c'est présent dans vos esprits ou bien vous essayez un peu de vous en démarquer?
Non, moi ça a complètement transformé ma vie depuis 6 mois quand même. Surtout par rapport au retour que j'ai pu avoir de lectrices et de lecteurs. J'avais jamais reçu ça, quoi, de ma vie. J'avais déjà fait lire mes textes depuis longtemps à des amis, à des connaissances, dans des ateliers d'écriture, mais là c'est vrai que je me suis rendu compte de l'importance de ce roman-là, et pour moi et pour les autres. Et ça, c'est vrai que dans l'écriture, ça manque extrêmement, qu'on se sent seul, pour revenir à la solitude du départ, et que quand on a l'occasion de discuter avec des lectrices et avec des lecteurs, bah, c'est un cadeau incroyable, en fait. Et on se rend compte de notre travail pendant 2 ans. Quoi. On se dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, c'est hyper important ce que tu fais, c'est hyper important ce que tu as écrit. On manque de représentation. On se sent hyper seul. Et là, tout d'un coup, tu as ouvert quelque chose et tu t'en rends pas compte. Et je pense que je m'en rendais pas compte et je m'en rends toujours pas compte. Et heureusement.
Oui, parce que du coup, là, il y aurait une responsabilité.
Clairement, mais je ne veux pas l'avoir, la responsabilité, ouais, voilà. Depuis quelques mois déjà. Non, je plaisante, mais je pense qu'il y a une responsabilité, bien sûr. Je pense que c'est difficile de la porter aussi vite et que ça, par exemple, ça ne s'apprend pas. Oui. Et voilà, aussi, c'est très important de devoir parler de ce qu'on a écrit. C'est extrêmement difficile, je trouve. Et voilà, non, moi ça a transformé ma vie et j'ai hâte d'écrire le deuxième. J'espère avoir le temps, la disponibilité pour le faire.
D'accord. Jeanne. Moi, ça, évidemment. Bon, alors, mon livre est sorti depuis 2 mois, donc c'est un peu différent.
C'est récent,
Mais ça change énormément de choses dans la mesure où maintenant il faut se dire. Enfin, j'ai envie de me dire que ça y est, c'est professionnel et que je vais pouvoir écrire et lutter avec. Toute la voix toute ma voix extérieure, je vais pouvoir lutter pour écrire. Mais c'est un chemin pas facile parce que le statut d'auteur est très complexe. Je vais pas parler maintenant de ça, mais ce serait un peu hors propos. Mais c'est un drôle de statut et surtout dans cette période où on n'a plus de petits boulots pour. Je l'appelle vraiment comme ça parce que c'est très trivial, c'est très quotidien. On n'a plus de petits boulots pour essayer de tout mélanger, enfin de pouvoir travailler à la fois l'écriture, à la fois la sensibilité et à la fois avoir un revenu. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en branle et faut réfléchir à comment. Il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir continuer dans l'écriture sereinement. Et puis la médiatisation n'est pas du tout quelque chose de simple. J'aimerais pas qu'on l'apprenne en master. Parce que là, ce serait formaté quelque part, une parole qui n'a pas besoin de l'être. Mais oui, c'est quelque chose et il faut le vivre pour comprendre comment procéder pour la prochaine fois. Et c'est de l'expérience. Et cette expérience-là, n'importe qui... Enfin, je ne parle pas de l'expérience médiatique, mais l'expérience de mise au monde professionnelle, c'est une expérience qu'on va tous avoir, qu'on a tous. Et c'est un moment pas facile, mais ça donne des défis et c'est bien.
Shan a ouvert une voie qui serait un débat riche et fort, qui est celle du statut de l'auteur et de sa complexité. Est-ce que ça, c'est un aspect que vous abordez
Oui, de manière informelle, mais aussi parce qu'on invite des auteurs, des éditeurs à venir parler de la réalité du terrain, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas pour parler vite parce que j'y travaille pas, mais au Havre, il n'y a pas d'injonction à la publication. C'est-à-dire que moi, c'est une immense fierté pour moi d'avoir suivi Shan 2 ans et que le livre soit publié et cet écho. Camille Reynaud, qui intervient dans l'heure suivante, là, dans le cadre du festival, est diplômée de la même promotion que Shan, et son livre est sorti aussi en même temps. Donc c'est très bien, mais aux étudiants, je les accompagne pour qu'ils soient le plus satisfaits possible de leur travail, mais c'est pas genre, ah ben quoi, t'as pas réussi à éditer 6 mois après avoir fait ton diplôme, t'es un loser. Non, c'est pas ça. Des étudiants, des diplômés vont peut-être pas publier de livres et travailler dans le monde du livre ou alors être dans une dimension je sais pas moi, théâtrale ou de performance ou en lien avec les arts, pourquoi pas. Et encore une fois, c'est un moment, une formation. Donc là, il se trouve que pour Fatima, pour Shan, texte qui a porté leur diplôme est publié, c'est merveilleux. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être un livre qu'ils vont écrire dans 5 ans ou pas. Mais encore une fois, c'est aussi ce qui se passe dans le rapport qu'on a à la littérature. L'importance que ça a, voilà. Cette chose si futile, qui est centrale dans nos vies, aussi bien pour nous que pour eux. C'est presque plus important que le fait que le livre soit publié. Alors quand ça arrive, on essaye aussi il y a le travail avec les éditeurs, c'est important, mais aussi de continuer à discuter. Mais comme finalement chaque artiste dialogue avec d'autres artistes pour se construire. Je pense que c'est ça, c'est de pas être seul. Idéalement, il faut jamais l'être. Pas dans les temps de création, mais dans les temps de réflexion autour de son travail, c'est du dialogue et de l'échange.
Bien, ben merci infiniment à vous trois. Bien évidemment, je vous renvoie à la lecture des romans, hein, La petite dernière de Fatima Das, Tony tout court de Shahn Haddad, et également à la lecture du recueil de poésie de Frédéric Forté. Merci de votre attention, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et bien évidemment, la programmation du festival Effraction se poursuit. Je vous souhaite une très bonne journée.